RCF.
C'est Grand Angle, bonjour. Égypte, Moyen-Orient, ce passé qui nous inspire, c'est le thème de l'émission aujourd'hui en partenariat avec la revue Le Monde des Livres. Nous cultivons une... Qu'est-ce que j'ai dit? Le Monde des Livres, effectivement, Le Monde des Livres, on en parlera tout à l'heure avec Robert Solé, avec Le Monde de la Bible, bien sûr. Nous cultivons une sorte de fascination pour l'Égypte ancienne, mythique, impressionnante. Et le succès de l'exposition Toutankhamon confirme cet attrait pour une civilisation perdue. En sommes-nous les héritiers ou bien est-ce justement ce monde étranger qui nous attire? Que peut encore nous révéler l'Égypte, mais aussi le Moyen-Orient, berceau des religions et des civilisations? En studio pour en parler, Benoît de Sagazan, vous êtes rédacteur en chef de la revue trimestrielle Le Monde de la Bible.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Le Monde de la Bible, dans votre dernier numéro, un grand dossier sur les pharaons, l'héritage en question. Alors que donc, je le rappelais, l'exposition Toutankhamon est installée à la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 15 septembre. Raphaël Ziadé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste d'histoire des religions, histoire de l'art, vous êtes conservatrice, responsable des collections d'art byzantin au Petit Palais à Paris, une des plus belles collections d'icônes en France, c'est certain, presque au monde peut-être.
Peut-être pas, il y a la Russie et la Grèce, mais pour la France, c'est déjà très très bien.
C'est une très belle collection. Vous avez été commissaire de l'exposition Chrétien d'Orient, 2000 ans d'histoire, l'an dernier, à l'Institut du Monde Arabe. Et puis Dieu, mode d'emploi, c'était au Petit Palais en 2012.
Absolument.
Robert Solé, bonjour.
Bonjour.
Né au Caire, vous êtes d'origine égyptienne, presque un demi-siècle de journalisme, au Monde principalement, et au Monde des Livres. Aussi, romancier, essayiste, vous n'avez cessé d'écrire sur l'Égypte jusqu'à ce nouveau roman, Les Méandres du Nil, publié ces dernières semaines aux éditions du Seuil, dont nous allons pouvoir parler avec tant d'autres choses. Égypte, Moyen-Orient, ce passé qui nous inspire, c'est le thème du jour de Grand Angle. C'est tout de suite sur RCF.
RCF, Grand Angle, présenté par Christophe Hénin.
Benoît Sagazan, alors déjà dans le numéro précédent du Monde de la Bible, vous parliez de cette exposition Toutankhamon, une exposition importante. Pourquoi, comment se fait-il que cette exposition prend une telle ampleur?
Je pense que l'égyptomanie ou l'égyptologie, en tout cas, n'a jamais quitté la passion des Français, en fait. Hein. Ça se vérifie à chaque fois que nous traitons d'Égypte, ce sont nos meilleurs scores en librairie et dans les kiosques. Donc il y a une véritable fascination, un attachement qui est à nul autre sujet pareil.
Toutankhamon, c'est aussi toute une histoire.
Oui, et puis
l'histoire de la découverte.
Et Toutankhamon est déjà venu en France. Alors même si c'est 67, ça paraît très 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 loin. Je crois que c'est resté dans la mémoire et c'est resté longtemps. Mais j'ai une voisine qui en parlera beaucoup mieux que moi.
Raphaël, comme vous pouvez nous en parler. Voilà, c'était au Petit Palais.
Le record absolu du nombre de visiteurs pour une exposition temporaire.
C'était en 1967.
Exactement. Et donc pour nous, c'était important à la fois de traiter l'exposition, mais d'aller au-delà, de revisiter un petit peu cet héritage égyptien. Il y a beaucoup de questions qui sont débattues à la fois chez les égyptologues, mais même chez les biblistes autour de l'Égypte. L'Égypte est vraiment pour nous, en plus, c'est l'autre matrice culturelle avec la Mésopotamie. De la Bible. La Bible repose sur deux piliers, c'est la Mésopotamie et l'Égypte. Donc c'est des sujets qui ont toujours parlé dans notre culture chrétienne finalement, parce que Pharaon a tout le temps entendu parler dans les textes.
Comme je disais en introduction, parce que ça nous est étranger ou au contraire parce qu'on se sent finalement une certaine intimité malgré tout avec l'histoire égyptienne.
Même si les images étaient un petit peu tronquées ou parce que l'Égypte dans la Bible n'est peut-être pas la réalité de l'Égypte elle-même, mais ça fait partie de nos univers. Je veux dire, même la fuite de la Sainte Famille dans les Évangiles en Égypte fait partie des images populaires que tout le monde a côtoyé au moins une fois dans sa vie. Donc
il y a partie liée entre l'Égypte et toute cette partie du bassin méditerranéen.
Voilà, je crois que nous avons tous une part d'Égypte en nous.
Voilà, comme c'est dit. Raphaël Ziadé, cette exposition est importante. En quoi elle est si importante? Puis après, on parlera de celle de 1967.
Elle est importante parce qu'elle est magnifique et que les Français, les Parisiens, enfin tout le public a une chance inouïe de pouvoir à nouveau contempler ces trésors de la tombe de Toutankhamon sans se déplacer en Égypte. Une exposition, c'est ça, ce sont des trésors qui viennent jusqu'à vous, alors que sinon il faudrait aller jusqu'à eux. Et ils sont là à Paris, ils sont merveilleusement présentés. Moi qui fais des expositions.
Oui, qui avait l'habitude de monter des expositions.
En tant que commissaire, qui connaît les coulisses, les difficultés qu'on rencontre, je peux dire que là, c'est très abouti. C'est une leçon pour nous tous commissaires. Les œuvres qui sont très très bien restaurées sont magnifiquement exposées. Chaque vitrine est travaillée avec soin. On peut en faire le tour, les éclairages sont parfait, les détails sont reproduits en grand, les cartels sont accessibles. Certains sont, enfin, les vitrines ont plusieurs dispositifs de cartels, dont certains qui sont placés au-dessus. Donc, quand vous faites la queue pour accéder à l'objet, vous pouvez déjà lire ce dont ça va parler. Et ça, c'est quelque chose que le Petit Palais, en 67, avait dû expérimenter en raison de la foule tout à fait inattendue qui s'était pressée à l'époque.
Combien de personnes à l'époque ?
1 200 000 et même des poussières. Mmh. Record pas encore battu, mais nous allons voir si là, la Villette...
Peut-être cette année. Voilà. Ça veut dire que le succès, c'est surtout tout en camon qui tient la palme, finalement.
Oui, vraiment, tout en camon. Et on le comprend en voyant les objets. Hein,
cette exposition de 1967, parlez-nous-en, elle a marqué à la fois la muséographie et puis aussi cet engouement pour l'Égypte.
Oui, elle a énormément marqué. Hein, ceux qui l'ont vue en parlent encore. Hein, puisque... elle est due, déjà, c'est un succès de Christiane Desroches-Noblecourt, que vous avez cité tout à l'heure, qui s'est battue pour avoir ses trésors. L'exposition tournait aux États-Unis. Elle a obtenu de Malraux de les faire venir en France. Malraux qui a inauguré l'exposition. Et tous les bénéfices étaient reversés à la protection des monuments de Nubie qui étaient menacés par le barrage d'Assouan. Donc au-delà de faire connaître l'Égypte et cette tombe de Toutankhamon aux Français, il y avait le sauvetage de toute une zone en péril. Elle a obtenu ce grand succès diplomatique et en particulier le masque d'or de Toutankhamon, la Joconde de l'Égypte qui a pu venir en France. Et au Petit Palais, nous avons les archives de tout cela. Nous avons les archives de l'arrivée des déménageurs, hein, de l'ouverture de la caisse, de la mise en place du masque dans les vitrines. Bon, on peut suivre pas à pas tout le montage. On a aussi toutes les coupures de journaux de l'époque qui nous montrent à quel point personne ne s'attendait au succès. En fait, jusqu'à présent, les expositions n'étaient pas des grands succès populaires. C'est la première grande exposition populaire. Et on a dû mettre des mesures en place qui n'étaient pas prévues, des prolongations des nocturnes, prolongation de l'exposition de 2 mois. Il y a eu jusqu'à 12 000 visiteurs par jour. C'est
extraordinaire. Mmh. Robert Solé, rien que cette exposition 1967, c'est déjà un cadre presque romanesque qui pourrait être aussi faire l'objet d'un roman. Vous avez vu, vous, l'exposition à la Villette? Comment vous l'avez...
Oui, et je confirme, en effet, Alors, il y a peu d'objets, il y en a 150. Vous savez que le trésor de Toutankhamon, c'est plusieurs milliers d'objets. Mais justement, le petit nombre fait que on peut bien les voir, on peut tourner autour des objets, justement. Ils sont, comme vous l'avez dit, très bien, c'est bien expliqué. Mais ça ne m'étonne pas. Enfin, ce succès ne m'étonne pas. Moi, je suis pas étonné du tout. Je m'y attendais. L'Égypte attire, passionne, fascine depuis l'Antiquité. Enfin, c'est pas nouveau.
Une passion française, hein, même, vous avez écrit
les Français n'ont pas le monopole, si vous voulez, de la passion pour l'Égypte. Simplement, les Français ont consommé cette passion à leur façon. Chaque peuple consomme sa passion à sa façon. Les Anglais, d'ailleurs. Alors, ce serait peut-être un peu trop long pour dire pour la France.
Alors, la spécificité française.
Mais la spécificité, c'est que d'abord, il y a eu Bonaparte. Qui a fait exploser le système politique égyptien, qui a ouvert de cette façon la voie aux fondateurs de l'Égypte moderne. Il y a eu Champollion, c'est un Français qui déchiffre les hiéroglyphes. C'est un Français, un autre Français, Auguste Mariette, qui découvre le Sérapéum de Saqqara, qui crée le musée du Caire, qui crée le service des antiquités égyptiennes. C'est un autre Français, Ferdinand de Lesseps, qui va percer le canal de Suez. Et ce sont surtout je dis surtout parce que pour moi c'est très important, les écoles. La France n'a pas occupé l'Égypte. Ce sont les Anglais qui ont occupé l'Égypte. Mais la France a joué sur une autre dimension.
Un rôle culturel et éducatif.
La culture. Ça a été les écoles, des écoles catholiques au milieu du 19e siècle, qui ont très vite été les seules et les meilleures du pays, pour garçons et pour filles, et qui ont été prolongées dans les années 1910 par les lycées de la mission laïque française. Et ça, ça a contribué à la passion pour l'Égypte, mais dans les deux sens. Parce qu'il y a eu aussi une passion égyptienne pour la France, et j'en suis un exemple.
Merci. Et puis alors, on parlera de l'obélisque aussi tout à l'heure, parce que il est au cœur de votre dernier roman. Raphaël Ziadé, peut-être l'histoire aussi de cette découverte. 1922, c'est pas si vieux que ça. Qu'est-ce qu'on peut, Benoît de Sagazan, qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette découverte assez surprenante de la tombe de Toutankhamon?
Bah, c'était, oui, ça fait partie des mythes et des légendes. On a même parlé de la malédiction de la tombe par, donc cette découverte par Howard Carter, effectivement, dont en fait, on n'est pas loin du centenaire, il me semble. Hein.
1922, donc.
1922, donc on y sera bientôt, on y sera.
Avec l'ouverture, donc, d'un nouveau musée.
Voilà, exactement. Et alors, ce qui va correspondre, en grosso modo, à une année près, à l'ouverture du Grand Musée du Caire, effectivement.
Et au retour, donc, de
ce trésor-là. De cette exposition. Oui, parce que cette exposition doit voyager, je crois, auparavant à Londres, Sydney et Tokyo.
C'est effectivement, Robert Solley, un patrimoine mondial, pour le coup. Vous parliez de la spécificité française, mais partout,
oui,
il y a cet accueil.
L'attirance pour l'Égypte n'est pas étonnante, si vous voulez. La civilisation pharaonique est la seule au monde qui nous ait légué autant de choses, et autant de belles choses, des choses gigantesques, les pyramides, Salle hypostyle, etc., ou les choses infiniment petites, et les bijoux, les
dans le détail. Et même dans la pensée, dans la culture aussi.
Oui, alors il y a eu ça, il y a eu les momies. Les momies, ces morts qui ne sont pas tout à fait morts, qui fascinent, qui ont toujours fasciné les gens. Il y a eu les hiéroglyphes qu'on ne savait pas déchiffrer pendant 14 siècles. Et justement, parce qu'on ne savait pas les déchiffrer, on a imaginé toutes sortes de choses. Ça a nourri l'imaginaire. Et puis il y a la beauté, tout simplement, du cadre, si vous voulez. Tous ces vestiges s'inscrivent dans un décor de sable et d'eau qui magnifie tout ça. Et puis la modernité, alors là je me tourne vers les spécialistes, mais la modernité des lignes égyptiennes quand même, indémodable.
Raphaël Ziadé.
Ah oui, c'est tout à fait stupéfiant de voir cette modernité. On est au 14e siècle avant Jésus-Christ. Moi, l'un de mes objets préférés, c'est le petit trône, enfin le trône du petit Toutankhamon, qui était présenté au Petit Palais en 67 et qui est de retour à Paris à la Villette, ivoire, or repoussé, feuilles d'or repoussées, avec des lignes qui pourraient, enfin, qui ont été reprises par l'art déco. Ou aussi par le style napoléonien, hein, quand on voit les pieds en forme de pattes de lion. On a du mal à penser que le 14e siècle a pu produire des objets, entre guillemets, aussi modernes. Les couleurs sont magnifiques. Enfin, l'utilisation de l'albâtre, moi, me fascine. Souligné à la peinture noire, on voit la couverture du monde de la Bible a choisi ce portrait de Toutankhamon en albâtre, avec des yeux cernés de noir et sa bouche relevée de peinture rouge. C'est extraordinaire, on n'a pas fait plus beau. Et puis pour ce qui est du sens profond de toute cette civilisation, je pense que ça, et même les enfants le perçoivent, parce que les enfants, si vous les emmenez voir une exposition d'art byzantin, c'est ma spécialité, franchement, ils vont pas accrocher.
Quel dommage.
Mais
ils grandiront, ils reviendront.
Ils reviendront 10 ans plus tard. Mais avec l'Égypte, les enfants sont là. Et qu'est-ce qui peut fasciner? Moi, je me demande souvent. Est-ce que c'est pas justement ce rapport à la mort, d'ailleurs, dont on parle si peu maintenant dans notre civilisation européenne? Vous le disiez, Robert Solley, les momies, est-ce que sont-elles mortes? Sont-elles encore vivantes? En tout cas, il y a dans l'Égypte, on y touche cette volonté de l'homme de ne pas se résoudre à sa propre mort. Est-ce qu'il y a une civilisation, une religion qui a davantage imaginé l'au-delà que l'Égypte? Je ne pense pas, dans ses moindres détails. Et les tombes le montrent, le mobilier funéraire, combien y a-t-il de pièces? 2000, 3000?
Au moins
3000 dans cette tombe.
Et encore, c'est un petit pharaon, Toutankhamon. C'était un petit pharaon qui est mort très jeune. Alors on imagine ce que pouvait être la tombe de Ramsès II, par exemple.
Oui.
Ça devait être 10 fois mieux que ça, 10 fois plus important.
Et là, les habits de Toutankhamon sont là, hein, ses sandales, on a ses gants aussi. Ça, c'est très impressionnant de voir ses gants, parce que ça a été directement en contact avec lui de son vivant. Et les gants sont là. Et tout cela est réuni pour le préparer dans cette vie de l'au-delà.
Une civilisation particulièrement raffinée.
Oui,
et invention de l'au-delà, Benoît de Sagazan, oui. Vous avez confié un article à Marie-Lise Arnett dans notre numéro.
C'est une chose qui me fascine le plus, mais juste pour prolonger un petit peu le propos de Raphaël Zadeh, c'est non seulement ces objets sont beaux, mais l'Égypte est un formidable conservatoire, parce que les documents les plus anciens que l'on trouve aujourd'hui, ils nous viennent d'Égypte. Tous les papyries nous viennent d'Égypte. Il y a un climat qui fait que tout se conserve. Vous parliez des gants en Occident, on les aurait perdus depuis longtemps. Ils auraient été, ils auraient disparu, quoi. Oui. Ils ne seraient plus dans cet état-là. Donc c'est un conservatoire, mais qui est incroyable.
Oui. Est-ce que tout était prévu justement pour que ça passe les siècles?
Je dirais que non.
Non.
Moi, je pense que c'est le miracle égyptien.
Mais ces tombes n'étaient pas faites pour être vues. Elles étaient cachées, elles étaient creusées dans la montagne. C'était pas fait. Ça avait un sens religieux, tout ça. On accompagnait le défunt dans la mort, il fallait qu'il se nourrisse. Et comme on n'avait pas assez de victuailles, au bout d'un moment, les offrandes arrivaient quand même à un terme. On inscrivait sur les murs ces offrandes, et de façon magique, parce que l'écriture égyptienne est magique, ces offrandes se transformaient en principe en offrandes réelles, en nourriture réelle. Mais tout ça n'était pas fait pour être vu. Et c'est ça qui est fabuleux. Ils n'ont pas fait ces merveilles pour que nous, on n'aurait pas dû entrer dans ces tombes. C'était pas fait pour ça. C'était caché.
Ah.
C'était caché.
Et ça, vous sentez que c'est le moderne, contemporain
plus fort.
Qui...
Je veux dire, c'est encore plus fort. C'est beaucoup plus fort. Ça veut dire que la religion égyptienne avait vraiment, ils avaient des convictions vraiment. Ils étaient persuadés. Alors c'était une des conditions. Il fallait que le corps soit parfaitement conservé et entièrement conservé. C'est le problème de Ramsès II. Ramsès II, on a une momie qui est au musée du Caire parfaite. On l'a devant nous, ce grand pharaon. Son père aussi à côté, Séti Ier. Mais dans le cas de Ramsès II, on n'a pas retrouvé les vases canopes qui contiennent les viscères. Or, c'est une condition indispensable pour atteindre l'éternité. Et je me pose beaucoup de problèmes pour l'éternité de Ramsès II.
En tout cas, sa popularité reste entière.
Pour revenir à votre question, oui, c'est ce qui me fascine. C'est un des aspects qui me fascine le plus dans cette civilisation. Ce sont les premiers à nous initier, à avoir inventé ce rapport à l'immortalité que nous vivons aujourd'hui. Ils ont même été beaucoup plus loin que les Hébreux à la même époque. Je veux dire, dans l'Ancien Testament, on n'a pas ce rapport à l'immortalité, cette idée de passage
tardivement dans la Bible.
Même l'idée qu'on serait jugé sur nos bonnes actions, tout simplement. Dans les livres des morts, on trouve des choses incroyables. C'est superbe. Et nous, on avait fait un dossier il y a 2 ans sur la vie après la mort d'Osiris à Jésus, pour montrer que le christianisme a repris beaucoup de choses, reprend beaucoup de choses de cette civilisation.
Alors on peut en venir là, justement, quel est l'héritage? Parce que effectivement, tout ça aurait dû se perdre dans les sables, mais peut-être pas dans les civilisations. Est-ce que ce sont les Hébreux qui ont repris cet héritage intellectuel, spirituel, plus ou moins, ou pas?
Je voudrais pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression que les Hébreux sont un peu laborieux sur la question, quoi. Sur l'au-delà,
sur cette question-là.
Sur cette question de l'au-delà, sur l'histoire l'idée d'un paradis, est-ce qu'il est spatial, est-ce qu'il est temporel, ils ne tranchent pas vraiment là-dessus. Dans les évangiles, Jésus semble plus direct là-dessus. Et on peut penser, moi c'est une explication que j'ai peut-être mais je suis peut-être contredit par les coptologues que j'ai autour de moi, c'est que le christianisme a pris assez facilement et assez rapidement en Égypte, il me semble, parce que le terreau était là, quoi. Il me semble qu'il y a un terreau commun, je crois que cette idée d'une vie dans l'au-delà était préparée déjà, existait déjà.
Voilà, que vous connaissez bien le monde copte aussi.
Même si le christianisme a dû prendre bien sûr sur la communauté juive d'Alexandrie d'abord, mais il y avait quand même un terreau. Les premières croix coptes sont des croix de vie, quoi.
Enfin, les idées.
Oui, le christianisme ne va pas aussi loin dans le détail de ce qui nous attend après la mort et comment on va l'atteindre. Mais en fait, les croyances étaient là, c'est certain. Et puis, le christianisme s'est réapproprié des motifs qui était présent dans l'Égypte ancienne.
En termes artistiques.
En termes artistiques, en termes symboliques aussi. Par exemple, la Vierge allaitante, qu'on retrouve dans l'iconographie des premiers chrétiens en Égypte, sur des fresques ou dans des manuscrits, vient directement de Isis allaitant Horus. Là, c'est une transposition directe d'un motif qui était déjà là dans la civilisation égyptienne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Égypte est un jalon, est le jalon manquant entre le monde hellénistique et l'Antiquité tardive. Donc, elle nous a légué la civilisation pharaonique, mais elle nous a légué aussi la civilisation hellénistique qui était présente à Alexandrie. Par exemple, des techniques de peinture. La technique de l'icône, qui est une peinture sur bois à fond d'or, vient de la Grèce et est passée par l'Égypte. Car c'est en Égypte qu'elle a été conservée
tout
et transmise. Tout ça circule. Et même les origines de l'icône. Hein, donc l'icône, c'est ce panneau de bois à fond d'or qui représente le Christ, la Vierge et les saints. Ces origines sont palpables en Égypte et pas ailleurs. D'abord parce que l'Égypte, par son climat, a conservé des icônes du 6e siècle, les plus anciennes. Parce qu'elle nous met, l'Égypte nous met en contact avec cette technique de la peinture héritée de l'Antiquité grecque. Et aussi parce qu'en Égypte, on a retrouvé des panneaux peints sur bois qui représentent des divinités. Alors, ce ne sont plus les divinités pharaoniques, ce sont des divinités plutôt du monde romain hellénistique.
Plus récentes.
Plus récentes. Mais c'est quand même déjà des panneaux avec des portraits de divinités, de même qu'on aura des panneaux avec des portraits du Christ, de la Vierge et des saints. Et aussi, l'icône vient aussi du portrait funéraire, le portrait funéraire de défunts. Qu'on a retrouvé au Fayoum, donc en Égypte, qui ont été peints entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ, qui étaient placés sur les momies, sur les cercueils de momies. À un moment donné, on a remplacé le masque par un portrait du défunt, comme une photographie du défunt. Et l'icône hérite aussi de cela. Donc, sans l'Égypte, on ne comprendrait rien, vous voyez. C'est vraiment, elle nous a permis de transmettre tout cela.
Égypte, Moyen-Orient, ce passé qui nous inspire, ces Grands Angles sur RCF avec Benoît de Sagazan, Raphaël Ziadé et Robert Solé.
Grand Angle, Christophe Hénin.
Avant de poursuivre notre échappée vers l'Égypte, enfin non, on va poursuivre cette échappée vers l'Égypte avec votre dernier roman, Robert Solé, Les méandres du Nil. Alors, on se trouve au 19e siècle, hein, votre héros Justin Le Guillou participe à l'expédition qui doit transporter l'obélisque de Louxor en France. C'est un cadeau fait à Charles X. Tout est démesuré quand on parle de l'Égypte. On voit que c'est une expédition extraordinaire. Alors, il y a à la fois toute une époque que vous retracez, une histoire d'amour aussi. Mais cette épopée, malgré tout, culturelle aussi, et qui n'est plus guerrière peut-être comme au temps de Napoléon.
Oui, plus du tout. Puisque c'est un cadeau, et en effet, le monument déjà est gigantesque. Hein, l'obélisque qui se trouve actuellement à la Concorde.
À la Concorde.
Il a son frère jumeau qui est resté à Louxor. Ils font 22 mètres de hauteur et ils pèsent 220 tonnes sans le socle. Et il n'était pas question de... C'est du granit, granit d'Assouan. Il n'était pas question de le découper en tranches. Il fallait le transporter tel quel. Et c'était très compliqué. Très compliqué. Il fallait abattre cet obélisque, le charger à bord d'un bateau, redescendre le Nil, qui n'a pas... il faut un tirant d'eau très faible... ensuite naviguer en Méditerranée, etc., faire le tour de la péninsule, remonter la Seine et arriver jusqu'à Paris. Alors il a fallu 120 hommes, plusieurs années, un bateau spécial qui tenait pas la mer. On a failli, sombrer en Méditerranée. Et voilà, ça a été. Il a fallu presque 6 années. Pour réaliser cet exploit. Étant entendu que le véritable exploit, il n'est pas là. Le véritable exploit, c'est celui du temps de Ramsès II, comment les Égyptiens, avec les moyens de l'époque, ont pu fabriquer un monument de cette merveille absolue. Parce que les savants de Bonaparte ont fait des calculs. Ils se sont aperçus d'une chose stupéfiante, c'est que les quatre faces des obélisques n'est pas plane. Elle est légèrement convexe. Pourquoi ? Pour qu'elle n'apparaisse pas concave. C'est fabuleux. Avec les moyens de l'époque. Comment ils ont fait pour ériger ces obélisques ? Alors, on a des hypothèses, mais on n'est pas tout à fait sûr. Pas sûr. C'est ça, le véritable exploit. Alors ensuite, c'est vrai que dans les années 1830, techniquement, sans la machine à vapeur, tout ça, on a... Ça a été un événement, l'érection de l'obélisque en octobre 36. Il y avait 200 000 personnes sur la place de la Concorde.
Voilà, encore un grand succès, non loin du Petit Palais. Mais on voit bien aussi dans votre livre cette histoire du Nil. D'ailleurs, ça donne le titre. Le Nil, c'est aussi cette part un peu insaisissable de l'Égypte. Malgré tout, on met la main sur l'obélisque, mais quelque chose résiste, non ?
Oui, en réalité, bon, c'est le titre du livre. Il y a en réalité deux aventures dans ce roman. Il y a l'aventure de l'obélisque.
La jeune brodeuse.
Alors, et puis il y a une autre aventure qu'on connaît beaucoup moins. Il se trouve qu'elles coïncident dans le temps. Elles se sont croisées en Méditerranée, les deux expéditions. Et la deuxième expédition, c'est celle des Saint-Simoniens en Égypte. Saint-Simonien, c'est ce mouvement d'ingénieurs, de médecins, etc., qui est à la fois très généreux et complètement fantasque. Puisque son chef, qui se fait appeler le père, va aller rencontrer la mère en Orient. Et à eux deux, ils vont former l'union des peuples. Et en perçant le canal de Suez, ils vont relier l'Orient à l'Occident. Bon, c'est de la folie, et en même temps, c'est prophétique. Parce que le canal de Suez viendra quelques décennies plus tard. Et donc, mon roman, ce sont en fait deux personnages qui appartiennent chacun à une expédition, et c'est une histoire d'amour, en effet. Mais épistolaire, c'est-à-dire que les deux
ne se voient pas beaucoup.
Ils ne se sont vus qu'un soir, simplement, et ils se découvrent et découvrent l'Égypte à travers des lettres qui n'arrivent pas toujours.
Voilà. Et en même temps, on sent que c'est aussi à la fois le culte du passé, et puis une quête d'avenir aussi, pour cette jeune femme.
Oui, pour les deux. On est quand même dans une époque très entreprenante, on est en pleine égyptomanie. On vient de déchiffrer les hiéroglyphes, on est en pleine aventure. On fait des choses qu'on ferait pas aujourd'hui. On n'irait pas mutiler un temple égyptien aujourd'hui, comme on l'a fait. Même si c'est un cadeau.
On le ferait pas à l'époque. Ce cadre de l'Égypte, il vous plaît d'abord parce que ce sont vos origines. Oui. Et puis c'est un cadre éminemment romanesque.
Forcément, oui. Vous savez, l'Égypte pour moi, c'est à la fois un amour d'enfance et puis c'est un objet d'étude. Parce que ça fait maintenant des décennies que je travaille sur l'Égypte. Donc ça m'inspire, mais plus j'avance et plus j'ai l'impression de ne pas connaître ce pays. Et je suis frappé par tout ce que je ne sais pas. Et c'est pas de la coquetterie, c'est exact, c'est vrai, c'est vrai.
Un pays qui doit faire face à des difficultés aussi aujourd'hui.
Alors c'était une grande puissance de l'époque, un grand empire qui devient un pays du tiers-monde. Et dans quel état ? Enfin,
ce qu'on peut suivre dans l'actualité. Cette Égypte, Benoît Sagazan, elle est aussi très actuelle, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, à travers la Bible finalement. Avant les découvertes du 19e siècle, on ne parle de la Bible, on ne parle de l'Égypte que dans la Bible.
Bien sûr, oui, c'était longtemps la seule connaissance que,
que nos copains, du moins en Occident, on pouvait avoir de l'Égypte, effectivement. On avait même une connaissance très lointaine. Quand on voit les premières peintures concernant l'Égypte, on voit plutôt un décor grec et un décor romain qu'un décor réellement égyptien. Mais cette image a toujours existé. L'image de Pharaon, la naissance de Moïse, ça fait partie des récits populaires.
Mmh. Moïse, on se pose la question dans votre numéro, est-il vraiment un disciple égyptien ou il est vraiment une sorte de... Enfin oui, un prophète. Comment vous...
Mais moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit Robert Solé, c'est que plus on travaille...
Moins on sait.
Non, mais plus on a de questions, en fait. C'est souvent le cas sur beaucoup de sujets, et j'entends très bien ce qu'il dit sur l'Égypte. Là, justement, ce qui est intéressant, c'est pour ça que c'est un héritage en question dans notre dossier, c'est qu'il y a beaucoup de questions concernant l'Égypte qui sont l'objet de débats plus que l'objet de réponses. Alors, même l'histoire d'héritage, elle est débattue. Est-ce que c'est un héritage ou est-ce que c'est une appropriation culturelle? Et l'histoire de Moïse, disciple d'Akhenaton, elle est posée. Donc, elle est beaucoup de biblistes pensent que non, il y a rien à voir entre Akhenaton et Moïse.
Déjà, il y a pas d'égyptologues,
au contraire. Et là, il y a un article de Pierre Grandet, moi, que je trouve remarquable dans notre numéro. C'est lui défend au contraire l'idée qu'Akhenaton a bien défendu. L'idée d'un premier monothéisme et que le soleil n'était que la face visible d'un être supérieur et créateur. Défendant même une triade qui ressemble à une trinité. Enfin, c'est plein de questions. Et dans ce même numéro, nous avons Thomas Romer du Collège de France qui nous dit que non, Moïse n'était pas un disciple d'Akhenaton, que les révélations ne se superposent pas.
Mmh. Raphaël Zédé, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur cette histoire biblique qui se nourrit de l'Égypte?
Moi, j'aurais envie de dire que la foi des Coptes d'aujourd'hui nous met en contact avec la foi des premières communautés chrétiennes. Moi, c'est ce que j'observe, parce que en ce moment, je travaille sur le culte des martyrs de Libye. Ce sont des ouvriers coptes qui ont été assassinés sur une plage de Libye par Daesh en 2015. Je ne sais pas si les auditeurs se souviennent de ces images. Daesh avait filmé l'exécution et posté sur les réseaux sociaux. Donc, même si ça a été retiré, on sait comment ça s'est passé. Et ces ouvriers ont été immédiatement déclarés martyrs par l'Église d'Égypte, par le pape Tawodros II, le patriarche des Coptes. Et ça s'est passé exactement comme dans l'Antiquité avec les martyrs. D'abord, il y a eu des lettres entre évêques, des témoignages. La décision a été très tôt prise de les faire passer d'un statut de simple victime à un statut de martyr. Et un culte très vif s'est organisé. On a pu rapatrier leur corps, on a construit une église sur leur tombeau qui est à Alminia, en Égypte, dans leur village natal. Toute une iconographie est née, que j'étudie, autour de ces martyrs. Alors là, c'est très spécial parce que c'est à partir des images postées sur les réseaux sociaux. Donc, c'est en même temps la même chose que dans l'Antiquité, et renouvelée par les images d'aujourd'hui, la manière dont elles sont prises, dont elles circulent. Et je viens de faire une acquisition au Petit Palais, que le public pourra voir en septembre, qui est justement une de ces images dédiées aux martyrs de Coptes, dits martyrs de Libye. Alors c'est un jeune peintre serbe qui l'a fait, cette image, mais on voit que le christianisme oriental s'est emparé de l'événement. Et donc là, j'ai une nouvelle image de martyr d'Égypte au Petit Palais. Enfin,
Mais vous êtes en train de nous dire que finalement, il y a une continuité, si ce n'est dans le culte, en tout cas dans l'expression spirituelle.
Il y a à la fois
les temps des pharaons.
Alors depuis le christianisme en Égypte. En Égypte, depuis les premiers chrétiens d'Égypte.
Mais ces représentations, vous le disiez tout à l'heure, techniques en tout cas.
En tout cas, là je parlais vraiment d'un fait chrétien, mais antique. Bien c'est sûr. La façon dont se fabrique une image de martyr. C'est-à-dire à partir de quel récit, comment on organise l'image. Là c'est un martyr collectif. Donc on organise, comment est-ce qu'on compose les martyrs sur une seule image. Donc il y a une composition. Et aussi comment le culte se crée sur place, autour des reliques. Et en fait, ce qui se passe en ce moment en Égypte est la même chose que dans l'Antiquité chrétienne. Donc ça nous permet à nous, historiens des religions, historiens de l'image, d'avoir sous les yeux la création d'un culte et de l'image qui va avec, de l'image des martyrs, de l'icône des martyrs qui va avec.
C'est cette grande démarche, j'ai envie de dire spirituelle, que vous retraciez dans Dieu mode d'emploi, hein, cette exposition qui avait lieu chez vous, au Petit Palais, où dans la modernité, dans l'époque contemporaine, on reprend, parfois inconsciemment, cet héritage.
C'est ça qui est tout à fait, moi, qui m'intéresse beaucoup dans le christianisme. C'est de la continuité historique. Il y a une force de la tradition, une force de la liturgie aussi, et une force des images, qui fait que, avec 20 siècles d'écart, la fabrication d'un culte se fait de la même façon. Aujourd'hui, en Égypte, le culte de ces martyrs est le même que le culte des martyrs de l'Antiquité. Il fonctionne de la même façon.
Robert Solé.
C'est tangible.
Oui, c'est tout à fait exact. Les Coptes sont marqués par le martyr. Leur calendrier ne commence pas avec Jésus, il commence avec l'empereur Dioclétien qui a été sanguinaire à leur égard. Ils sont marqués par le martyr, les Coptes, jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas martyrisés, Dieu merci. Ils sont menacés par des extrémistes. Ils sont discriminés dans la société égyptienne, c'est un autre problème. Mais bon, c'est pas. Mais le martyr demeure, en effet. Vous avez tout à fait raison. Le martyr, ça fait partie. Il y a d'autres choses. Alors, on a parlé de cette permanence, n'est-ce pas, de... Il y a quand même, il y a eu le monachisme quand même en Égypte avec Saint Antoine, Saint Pacôme, et ce n'est pas un hasard. Les premiers ermites, etc., c'est le désert. Et on s'aperçoit que les premiers monastères ressemblent beaucoup à des temples pharaoniques. Il y a des points communs, ce serait trop long d'entrer dans le détail, mais il y a cette permanence, si vous voulez, aussi. Et le mot copte veut dire égyptien. Le mot copte, les coptes, c'est pas le résultat de missions étrangères. Ce sont des Égyptiens, ce sont des Égyptiens, n'est-ce pas, ils se considèrent, ils ont tout à fait raison, comme des Égyptiens de souche, enfin. Plus égyptien que les Coptes, on fait pas.
Alors ça veut dire que cette manière de vivre, cette spiritualité, pour employer peut-être ce mot-là, elle est proprement égyptienne ou elle a quand même gagné, on parlait du monde hellénistique tout à l'heure, le monde des Hébreux aussi, ou comment vous voyez?
Vous savez, moi je pense qu'il y a la réalité ou ce qu'on en sait, et puis il y a l'imaginaire, l'image dans l'Égypte, c'est toujours comme ça. Il y a des réalités et puis l'image qu'on s'en fait. Hein, par exemple, l'image de l'Égypte dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est au choix. Hein. C'est ou bien le pays qui accueille la Sainte
Famille,
etc.
Ou bien l'oppresseur.
Ou bien celui qui rejette les Juifs, etc. Bon, on choisit. Hein. Et tout est comme ça.
Ça dépend des époques.
Aujourd'hui, on se fait de l'image de l'Égypte pharaonique une image d'équilibre, de sagesse, de beauté, de tout ça. Et on ne veut voir que ça. On veut voir que ça. Et ça nourrit. Au temps de la Révolution française, l'Égypte, c'était la source de la civilisation. Les Égyptiens avaient transmis la civilisation aux Grecs, qu'ils l'avaient transmise aux Arabes, qu'ils l'avaient transmise à l'Europe, et la Révolution française avait pour rôle, elle était le réceptacle de tout ça, et elle allait rapporter la civilisation dans son berceau, l'Égypte, c'est Bonaparte. Mmh. Bon, tout ça, c'est de l'imaginaire. Je veux dire, il y a une part de réalité, mais il y a une part d'imaginaire dans tout ça. Donc c'est difficile de faire la distinction.
Mmh. Raphaël Ziadé, cette culture égyptienne, elle a irrigué le bassin méditerranéen ou peut-être pas complètement?
Moi, je crois qu'elle est relativement autonome. Quand j'ai préparé l'exposition Chrétien d'Orient 2000 ans d'histoire, j'ai fait le pari de montrer qu'il y avait des points communs parmi les chrétiens du Moyen-Orient, de l'Irak jusqu'au Nil. Et donc j'ai mis en avant ces points communs. Néanmoins, l'Égypte a sa propre histoire. Elle a des points communs, mais elle est vraiment très originale. Alors, elle a donné le monachisme au monde, ça c'est certain. La vie monastique est née dans le désert égyptien. Elle a donné aussi des motifs. Hein, je parlais de Isis allaitante. Hein, c'est la vie, hein, c'est la maternité, la vie qui est donnée, transmise à l'enfant. Elle a donné aussi, par exemple, les cinq cavaliers. Je pense que les cinq cavaliers ont pris naissance en Égypte. ces cinq cavaliers si importants dans le christianisme oriental. Les plus anciens, on les voit dans le monastère de Bawit au IVe siècle. Ça donnera ensuite Saint-Georges, Saint-Démétrios, même Saint-Martin sera représenté parfois à la manière des saints byzantins à cheval. Donc oui, l'Égypte, elle est présente au Moyen-Orient, elle est présente dans l'imaginaire, mais elle a son autonomie. C'est-à-dire qu'elle se dilue moins que les autres, je dirais. Au Liban, en Syrie, il y a eu beaucoup d'absorption. L'Égypte, je pense, est plus étanche. Elle garde son âme.
Elle
garde, oui, y compris dans l'art copte.
Mm-hmm. Mais il est même pas impensable qu'elle n'ait pas voulu diffuser. Enfin, je pense qu'elle n'a même pas cherché à diffuser sa culture. Je pense que elle vivait pour elle-même, en fait. C'est pas comme la Grèce qui a voulu la culture grecque a voulu de créer une sorte de modèle dominant, on dirait aujourd'hui, et l'étendre à tout bassin. L'Égypte, ça n'a pas été son cas, même dans les pays qu'elle a soumis, quoi. En fait, c'est ça qui est étonnant.
Concert de Hang, Égypte, Moyen-Orient, ce passé qui nous inspire, ces grands angles sur RCF. Aujourd'hui avec Benoît de Sagazan, Raphaël Ziadé et Robert Solé.
Grand angle, Christophe Hénin.
Alors nous le disions juste avant la musique, cette Égypte est à la fois a nourri de façon assez inconsciente, hein, peut-être le reste du bassin méditerranéen, et est restée elle-même. Comment, Robert Solé, ce passé nourrit-il l'aujourd'hui des Égyptiens ce long courant qui a connu sans doute des hauts et des bas malgré tout hein, depuis l'époque des pharaons est encore très présent à la fois dans la réalité et dans l'imaginaire égyptien d'aujourd'hui.
Alors quand on disait l'Égypte est restée elle-même, je crois que la géographie a joué. L'Égypte c'est un désert, désert qui est traversé par un fleuve au milieu de bas en haut. Et elle est entourée de déserts. Et je pense que ça a contribué quand même à ce que vous disiez très justement, c'est-à-dire pas besoin de
cette relative autonomie.
Voilà, on se suffit à soi-même, etc. Je pense que ça a joué. Alors, les Égyptiens aujourd'hui, par rapport à hier, c'est un rapport très compliqué. Hein, très compliqué, parce que là, on a beaucoup parlé de civilisation pharaonique et tout, mais jusqu'au début du XXe siècle, ce sont les Européens qui s'intéressaient à tout ça, pas les Égyptiens. Mmh. Pour les Égyptiens, d'abord, c'était païen. Tout ce qui était avant le christianisme et l'islam, c'était païen, on voulait pas savoir. Et puis, on n'attachait pas d'importance à toutes ces vieilles pierres et tout. Et puis, c'est vraiment dans les années 1900 et 1920, surtout, qu'une fierté qui correspond à l'indépendance du pays, au fond, mouvement pour l'indépendance, qui fait que on prend conscience de la richesse de ce patrimoine, on en est très fier. Je sais pas, l'équipe de football, là, en ce moment, on ne parle que de football en Égypte, puisque elle s'appelle les pharaons, l'équipe de football, hein, ce qui était impensable il y a un siècle. Bon. parce que on a pris conscience de ce, et en même temps on est encombré par ce passé. On voit bien qu'il y a un rapport avec les étrangers qui est compliqué. On sent bien que les étrangers s'intéressent pas à vous, mais à vos ancêtres.
C'est l'objet d'un tourisme.
Il y a beaucoup de belles choses aussi en Égypte depuis le pharaon. Il y a tout un art islamique, copte, etc. Il y a plein de choses. Et puis l'Égypte d'aujourd'hui. Mais il est sûr que les gens vont en Égypte pour les pharaons, avant tout. Mm-hmm. Et ça, ça complique les choses.
Raphaël, il y a effectivement plusieurs couches qui se sont superposées dans l'histoire de l'Égypte. Malgré tout, il y a quelque chose qui perdure. Des différentes époques.
En tout cas, les Coptes d'aujourd'hui sont fiers que leur nom vienne du mot Aegyptos, qui veut dire égyptien. Ils ont conscience d'appartenir aux populations autochtones. Ce sont les vrais Égyptiens dans la mesure où ils étaient là dès le départ, je dirais même avant l'islam. Et cela a joué dans la construction des nationalismes. Enfin, le fait pour les chrétiens au Moyen-Orient de pouvoir se rattacher à des populations autochtones est important parce que c'est une manière de montrer leur légitimité à vivre sur cette terre.
Et leur attachement.
Leur attachement. Donc, même si c'est un peu abstrait de dire qu'on remonte aux Égyptiens et aux pharaons, c'est important pour sa légitimité sur place, hein, pour cette communauté copte.
D'autant plus,
la construction communautaire, identitaire.
Et vous l'avez bien montré dans l'exposition, hein, sur le christianisme 2000 ans d'histoire. Il y a aussi, par rapport à un christianisme occidental, une sorte de conservation, j'ai presque envie de dire, siècle après siècle, de ce qui est vécu par les communautés chrétiennes.
Ah oui, il n'y a pas de, surtout en Égypte, il n'y a pas vraiment de contamination par Rome, très peu, moins qu'au Levant, en Syrie, Liban, Palestine. Et on est vraiment proche de l'Église primitive. Les rattachements à Rome sont très tardifs. Il y a une partie des Coptes qui sont catholiques, mais on est sur une Église vraiment autonome. Et elle est autonome par rapport à Byzance aussi, parce qu'elle se sépare de Byzance au Concile de Chalcédoine au 5e siècle. Donc dès le départ, elle est indépendante et de l'effet byzantin et de l'effet romain. Donc on a vraiment quelque chose de très authentique.
Avec une communauté qui doit être très, j'ai envie de dire, très solide aussi maintenant, parce qu'elle est dans un environnement politique, spirituel, un peu compliqué.
Moi, je pense que le christianisme en Égypte est indéracinable. Il suffit d'aller voir une messe ou un pèlerinage.
En dépit des attentats, on sait qu'il y a pu avoir lieu.
En dépit de tout, je dirais peut-être pas pour les autres pays, mais en Égypte, je vois pas comment. La foi est très très forte.
Vous le disiez pendant la musique, Robert Solé, il y a aussi simplement aussi la langue qui est préservée par la pratique liturgique.
Oui, vous savez que le copte, c'est le dernier avatar, je dirais, de la langue pharaonique. Hein. C'est ce qui reste. Il n'est plus parlé depuis longtemps, depuis des siècles, dans la vie quotidienne, mais c'est uniquement une langue liturgique. Et donc, ce sont les seuls sons que nous possédons des pharaons, n'est-ce pas ? Il n'y a que comme ça qu'on peut à peu près approcher la façon dont les gens parlaient il y a 45 siècles. C'est fabuleux. Donc voilà, les Coptes. Alors les Coptes ont été pendant tout un temps considérés par l'Église catholique comme des schismatiques, des gens qui ne reconnaissaient que la nature divine du Christ. Ce qui était en fait un prétexte, tout ça, parce que c'était c'était, on l'a dit, les Coptes voulaient prendre leur autonomie, les gardes de Byzance de Rome.
Des questions dogmatiques qui étaient mêlées de politique.
En fait, c'est une religion, comme on l'a dit, très incarnée. Et puis les Coptes disent le Christ a une seule nature, elle est à la fois divine et humaine. Donc on a réglé le problème.
On n'est pas si loin que ça, finalement.
Les messes coptes, en effet, durent très très longtemps. C'est une religion incarnée à tout point de vue. Elle est charnelle, elle est... et elle est, vous avez employé le mot conservation, elle est aussi très conservatrice, hein, il faut bien voir. Les coptes prennent beaucoup de choses au premier degré. Si vous allez en Égypte aujourd'hui, on va vous montrer le circuit de la Sainte Famille, sur des centaines de kilomètres. Y compris le monastère.
Des pèlerinages qui se développent.
Mais bien sûr, et les autorités égyptiennes, alors...
Encouragent
fortement, parce que ça encourage le tourisme. Donc vous avez tout un circuit de la Sainte Famille qui va jusqu'en Moyenne-Égypte. Et quand vous parlez à des moines, il faut les prendre au mot. Ils vous disent « la Vierge s'est assise là ». Et c'est comme ça.
Raphaël Ziadeh, oui, cette tradition très longue, est-ce qu'elle nourrit aussi le reste du bassin méditerranéen, de la Palestine dont vous parliez, de Liban, Syrie?
Oui, on est vraiment en Terre Sainte au sens large. C'est les lieux où le Christ a vécu. On a ce même phénomène de construction des lieux saints à Jérusalem, alors qui est très ancien, hein, puisque ce sont les franciscains au XIVe siècle qui ont été chargés d'administrer les lieux saints et de créer ces parcours pour les pèlerins. Donc oui, la Bible, les lieux des évangiles, ils sont là, ils sont dans cette région. Ils sont historiquement organisés pour être des lieux de culte. Alors quelquefois, ça correspond pas exactement à l'histoire. Ça, c'est les archéologues ou les exégètes qui le déterminent, mais peu importe, la tradition est là. Ça veut dire que depuis des siècles, on honore le fait que la Vierge s'est assise là. Entre Jérusalem et Bethléem, il y avait une grande église qui a aujourd'hui disparu, qui s'appelle le Katisma, le siège de Marie. C'est un lieu où la Vierge s'est arrêtée juste avant d'aller accoucher à Bethléem. Il y avait une église octogonale dans l'Antiquité. On voit encore les vestiges quand on prend la route entre les deux villes. Moi, peu importe, je dirais que la Vierge soit vraiment assise là. Ce qui est important, c'est qu'on se souvienne, enfin, qu'on ait un rapport aux Écritures et un rapport au lieu saint dans le pèlerinage.
C'est la tradition qui fait l'histoire.
Qui fait l'histoire, oui.
Ce sujet, Benoît Sagazan, sur les Coptes, justement, fait partie du monde de la Bible, si je veux dire, à la fois votre
exactement.
Titre.
Exactement, et c'est pour ça que nous allons lui consacrer un dossier à la fin de l'année.
Ah bah voilà, on est passé
loin. Sur ces Coptes, partis à leur découverte, parce qu'on en parle beaucoup, mais on les connaît peu, finalement. Et je pense que notre curiosité, comme vous disiez, on plonge très vite dans les pharaons, puis on oublie ceux qui sont présents. Et je pense qu'ils méritent aussi toute notre attention.
Si vous avez, on arrive au terme de l'émission, un conseil, il faut aller voir l'exposition Toutankhamon.
D'autant plus que je ne l'ai pas encore vue, donc je me suis inscrit, ça y est, c'est fait.
Voilà.
Je pense que tous les retours que j'ai, notamment ceux de Raphaël Ziadeh, dont elle m'a déjà parlé avec beaucoup d'émerveillement, oui, je pense qu'il faut absolument la voir. Après, il faudra aller au Caire pour la voir, ce qui est pas mal non plus. Mais profitons-en.
Ça sera pour vous présenter aussi dans la revue ce futur musée du Caire.
Ce futur musée qui sera sans doute ouvert en 2021.
Mmh. Qui fera mémoire à la fois de la découverte de la tombe et du retour
exactement.
Du trésor.
Et voilà, bien sûr.
Mmh. Un conseil, Robert Solé.
Ben, moi, je dirais...
Qu'est-ce qu'il faut voir à cette exposition?
Oui, on peut la voir, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a d'autres choses à voir. Ici même, le musée égyptien du Louvre est une pure merveille.
Très belle collection.
Pure merveille. Il y a énormément plus de choses que l'exposition Toutankhamon.
Et vous qui avez dirigé longtemps le monde des livres, un livre qu'il faut lire pour comprendre justement l'Égypte des pharaons?
Oh là là, mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça parce que je vais vous en citer 120. Donc,
Eh ben, faut lire le vôtre déjà.
Oui, si vous voulez.
Raphaël Ziadeh, cette exposition, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce que vous avez parlé tout à l'heure du siège du petit? C'est ça qui vous marque?
Oui, pour le travail du bois de cèdre, de l'ivoire, de l'or. Mais oui, la présence de l'or m'a beaucoup marquée parce que l'or recouvre les statues en bois de Toutankhamon, par exemple. Et cet or, c'est l'or de l'icône. Donc là, on voit bien que l'or, c'est un métal réfléchissant qui vous renvoie la lumière. La lumière émane des dieux. Elle émane des statuettes qu'on a sous les yeux. Elle vient vers vous. Donc c'est comme la lumière divine qui vous inonde. Et là, j'ai vu d'où venait l'icône, là encore. D'où venait l'or de l'icône.
Et donc, on peut aussi aller voir les icônes après au Petit Palais. Merci à tous les trois pour cette émission, pour ce partage. Je rappelle, donc, le monde de la Bible, Pharaon, l'héritage en question. Le site aussi, le monde de la Bible, où on trouvera des livres numériques, le dernier en titre.
Le dernier en titre, c'est sur l'Égypte, justement. C'est l'invention de l'au-delà.
Les méandres du Nil, c'est le dernier livre de Robert Solé paru aux éditions du Seuil. Merci à Pierre Samanos qui est à la réalisation. Et puis Grand Angle, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur le site www.rcf.fr pour podcaster l'émission. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, RCF et sur Twitter, sur Facebook. Et vous pouvez retrouver donc les émissions. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre sujet.